Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello, vous écoutez Salut ça va,
le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut ça va. J'enregistre cet épisode dans mon lit, il est 22h et j'ai vraiment l'impression d'entamer une discussion avec une bande de copines. Et c'est un peu le cas. Cet épisode, ça va être vraiment plus axé autour de la discussion et de la réflexion et de sujets que j'ai très envie d'aborder et que le podcast me permet de faire. On est parti. Vous avez vu le titre, on va parler de féminisme et d'hétérosexualité. Évidemment, large, vaste sujet et toujours des sujets qu'on aborde avec... appréhension, d'autant plus quand on est une femme et qu'on aborde les sujets qui gravitent autour du patriarcat, de la sexualité, de tout ce qui s'ensuit, puisque très souvent, pour avoir fait l'expérience passée d'aborder ce type de sujet, on récolte beaucoup de haine de la part d'hommes notamment. Donc c'était pas forcément facile pour moi d'engager cette discussion, mais je sais aussi que le podcast permet d'avoir une audience beaucoup plus bienveillante et avertie. Ce qui me semble être du coup le format idéal pour pouvoir continuer ces discussions plutôt que ouvertement sur YouTube dans des vidéos qui du coup sont beaucoup plus accessibles à un plus grand nombre. Voilà pour cette petite introduction. J'avais envie de parler de ce sujet depuis longtemps. Je me suis demandé comment est-ce que j'allais l'aborder. Au début, on s'était dit qu'on allait faire une conversation avec Samuel. Je pense que dans un premier temps, j'avais besoin de partager ça entre nous, quelque part, et d'avoir aussi vos retours pour peut-être ouvrir sur justement un dialogue avec Samuel. Donc mon mari sur le sujet. C'est des réflexions qui sont assez nouvelles. Alors le féminisme, pas vraiment, mais me concernant le lien avec le couple et notamment l'hétérosexualité, c'est assez frais dans mes réflexions et je pense que le fait de nourrir mon cerveau de connaissances féministes, de lectures féministes, d'autrices, de penseuses en fait sur tous ces sujets, ça nourrit forcément beaucoup de questionnements qui sont hyper importants et qui correspondent très fortement à mes valeurs. Pour être clair, je pense que de toute façon, si vous consommez le contenu, vous le savez, ici on est assez engagé à ce sujet. Dans ma vie, ce qui a parfois amené des pensées dissonantes, ça a été cette dualité entre mon couple hétérosexuel, donc la vie que je partage et la vie intime que je partage avec un homme, et mes convictions et mon regard sur les inégalités, notamment de genre, et qui se retrouvent complètement dans le couple. J'ai eu envie de faire un épisode plus poussé sur le sujet parce qu'on a eu une discussion dernièrement avec Samuel, et on a beaucoup de discussions de ce type, où on se posait la question de savoir si c'était à refaire. Est-ce qu'on se conformerait à ce chemin de vie qui consiste à se dire on se fiance, on se marie, on a un enfant, etc. Alors le fait qu'on ait un enfant, oui, ça c'est quelque chose qui est assez évident pour nous. Mais pour autant, je pense que... on ne serait pas forcément marié dans le sens où on n'aurait pas mis autant d'énergie et d'investissement dans cette fête de cette façon avec tous les codes que ça comporte. Et en y réfléchissant, c'était des codes qui étaient complètement intégrés. Et quelque part, on a du mal, je trouve, en tant que jeune femme notamment, à forcément identifier dans un premier temps tout ce pourquoi on a été... quelque part formaté et élevé, notamment dans le cadre du mariage, avec toute cette pression autour de la découverte de la mariée, on arrive au bras de notre père. Bon, bref, il y a plein de petits éléments comme ça qui ont construit notre mariage. Alors bien sûr, chaque mariage est différent et on peut le penser complètement différemment. Mais c'est vrai que pour le coup, me concernant et concernant mon mariage avec mon mari, même si j'avais déjà l'impression d'être plutôt alertée sur ces sujets, je me rends compte que il y avait des choses qui n'étaient pas du tout dans mon champ de vision et de réflexion à l'époque. Je repense à la première danse où je dansais avec mon papa et ensuite il m'a tendue à mon mari. Et ça peut être des moments qui sont émouvants et on se dit « Ah, mais c'était quand même beau ce moment, etc. » Mais en fait, je me rends compte, en tout cas j'ai cette réflexion de me dire « Mais si j'avais été un homme, eh ben ça ne serait pas passé comme ça. » Et très certainement que si j'avais été dans un couple avec une autre femme, un couple lesbien, je ne pense pas que ça se serait déroulé de la même façon. Donc il y a quand même le poids et la reproduction du patriarcat dans beaucoup de nos, j'allais dire, coutumes. C'est au-delà de ça, parce que nous, on n'est pas religieux, donc je peux même pas mettre ça sur le compte de la religion ou de cette culture-là, puisqu'on n'a pas du tout été élevés ni l'un ni l'autre sous ce prisme, même dans cette laïcité ou en tout cas cette non-croyance, cet athéisme quelque part, et ben on se rend compte qu'on reproduit très facilement tous ces schémas. Et ça a été une première réflexion et une discussion qu'on a eue justement à ce sujet pour se dire que finalement, qu'est-ce qui nous avait importé dans ce mariage, c'était surtout de célébrer l'amour et de s'unir l'un à l'autre, mais qu'on n'avait pas forcément besoin, avec le recul, de toutes ces représentations et de tout ce que ça comportait. Ça a été une première piste de réflexion à ce sujet, et s'en est suivi beaucoup de discussions et de réflexions sur tout ce que le couple hétérosexuel implique et le poids de l'hétérosexualité dans notre féminisme, dans le poids de ce que les femmes portent au quotidien, notamment, et je pense que c'est un sujet majeur, la charge mentale. On commence enfin à en parler petit à petit, mais c'est clairement, on le sait dans les dernières études qui sont sorties, une grande responsabilité qui est donnée, confiée, imposée aux femmes, notamment en ce qui concerne les tâches domestiques. Les femmes consacrent plus de temps aux tâches domestiques que les hommes, ça affecte leur temps libre, il y a une forme de responsabilisation très tôt, même chez les enfants, où on remarque que les petites filles sont beaucoup plus amenées à participer aux tâches ménagères, où on passe davantage l'éponge, c'est le cas de le dire, sur la non-participation des petits garçons, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont comme ça induites très tôt et qui se retrouvent finalement dans le couple et dans notre quotidien. Dans les premières années de vie avec Samuel, c'est vrai que c'est quelque chose, et c'était un sujet de dispute et de désaccord que je n'identifiais pas forcément comme quelque chose lié à justement le poids du patriarcat et le fait qu'on se détache beaucoup plus facilement en tant qu'homme de nos responsabilités liées au foyer plutôt qu'une femme qui va prendre la responsabilité. Il y a beaucoup d'autrices très talentueuses qui ont abordé le sujet, notamment des sociologues, des philosophes. Sur cette question de responsabilisation, on a tendance à avoir des discours qui nous disent les femmes ont intérêt à moins faire et puis comme ça les hommes se mettront au travail. On sait que c'est faux, hein, on sait que ça ne marche pas forcément, et surtout on sait aussi que le dimanche, quand on va accueillir la belle famille ou la famille ou des proches, des voisins, peu importe, si la maison est en bordel, si le linge n'est pas fait, si le lave-vaisselle n'est pas vidé, si les enfants ne sont pas tirés à quatre épingles, la personne qui sera mise en cause et qu'on va regarder un peu de travers, ce sera très certainement la femme de la maison. Et c'est aussi une réalité dans la façon dont on se préoccupe et on place l'exigence liée à justement cette charge et cette gestion. C'est-à-dire que naturellement, pas dans le sens où c'est inné, hein, naturellement, à cause de notre société et justement de ces représentations-là, on a beaucoup plus d'exigences concernant tout ce qui est lié aux charges du foyer, et surtout on a plus de vigilance, je dirais, voilà, c'est le mot, le vigilance sur tout ce qui est annexe, que ce soit les rendez-vous liés aux enfants, parce qu'on sait que cette charge mentale elle s'accentue, hein, quand la famille s'agrandit, on a cette vigilance par rapport aux rendez-vous médicaux, par rapport aux connaissances des uns et des autres, notamment dans le fait de se placer en personne qui prend soin d'eux, voilà, les femmes prennent soin d'eux, et on le voit notamment dans les métiers, dans la représentation des métiers de soignants, des métiers dans l'univers du social, de la santé de façon globale, médicale, paramédicale, etc. Dès qu'on est dans des professions de soins et surtout des professions plus modestes, on retrouve une part de femmes beaucoup plus importante, que ce soit même auprès des enfants, etc., etc. Très largement, on place la femme en position de celle qui soigne, celle qui prend soin d'eux, et elle prend souvent soin de beaucoup de personnes sauf d'elle-même. Et dans le couple hétérosexuel, on peut retrouver aussi ces schémas qui sont répétés et qui s'induisent en fait très naturellement dans le couple, où on va attendre de la femme du couple qu'elle prenne soin de sa maison, qu'elle prenne soin de son conjoint, qu'elle prenne soin d'elle-même par rapport aux standards de beauté qui sont attendus, c'est-à-dire C'est-à-dire que très souvent, même après une grossesse, on attend qu'elle soit dans ce qu'on considère comme féminine, à savoir ne pas se relâcher, rester femme. Moi, je l'ai entendu hein, quand j'ai accouché de la part de membres de ma famille. Hein. Il ne faut pas t'oublier. Et ça veut dire quoi, il ne faut pas t'oublier? Ça veut dire qu'il faut que tu continues à pouvoir satisfaire les exigences, et notamment les exigences sexuelles. C'est ce qui est induit très facilement de ton mari, d'être dans la séduction. Ne sois pas que mère. N'oublie pas de rester sexy, de rester attirante, de rester désir, en fait. Donc, dans tous les stades de la vie, une femme est rappelée à sa condition et à ce qu'on attend d'elle, à savoir être un produit du désir pour le masculin, être au soin d'eux, donc être la personne qui prend soin d'eux, et être dans cette dimension, ce rôle, en fait, de la personne qui prend en charge pour les autres, quitte à ne pas exister en tant qu'individu elle-même, ne pas prendre trop de place pour laisser place à toutes les autres dimensions masculines et patriarcales de la société. Et on le voit dans beaucoup de représentations populaires, mais là je m'écarterai du sujet. C'est pas fataliste hein, quand je vous parle de tout ça, et c'est pour ça que j'utilise le podcast, parce que je trouve que c'est un média qui permet de détendre sa réflexion et pas simplement entrecouper des phrases et des mots sortis de son contexte. C'est pas fatal dans le sens où il n'y a plus rien à faire. Au contraire, je pense qu'on a tout à faire, et que se rendre compte, c'est une première étape. Il y avait un livre là que j'ai acheté dernièrement, que je trouvais être une bonne introduction à tous ces sujets, qui disait comment le féminisme va ruiner ta vie pour ensuite la reconstruire. Et c'est normal en fait de passer par cette phase quelque part de désespoir un peu, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, de réalisation en fait, de l'ampleur du travail et de l'ampleur de tout ce que ça implique dans notre vie, dans tout ce qui est de plus quotidien et accepté et quelque part banal, voilà, banalisé. Donc je reviens à mon sujet du couple et mon couple hétérosexuel duquel je fais partie, voilà, et toutes ces réflexions-là sont des réflexions qui ont été avant tout personnelles et que je partage avec vous, mais peut-être que vous n'allez pas du tout vous reconnaître dedans, et c'est totalement ok. L'idée c'est avant tout de donner des pistes de réflexion, et on n'est pas là pour être tous d'accord, sinon ce serait bien chiant. Voilà. On a parlé de la charge mentale, on peut parler aussi de la charge sexuelle. C'est un sujet qui est extrêmement bien abordé dans beaucoup d'ouvrages que je vous recommande. Je vous mettrai le maximum de références et de liens, de livres, d'articles, de personnalités extrêmement intéressantes sur tous ces sujets-là. Je ne vais pas commencer à citer des ouvrages, sinon je vais en oublier et je m'en voudrais. Je préfère faire ça à tête reposée et vous mettre tout ça en barre d'infos. Mais donc l'inégalité sexuelle et cette charge sexuelle, elle repose sur plusieurs piliers, notamment le pilier contraceptif. Ça, c'est vraiment un sujet dont on pourrait faire un épisode à lui seul, mais c'est une réalité des tout jeunes, parce qu'on a une très mauvaise prise en charge des douleurs et des maladies liées à nos hormones, à notre cycle, à nos menstruations et à tout ce qui s'apparente à l'appareil génital féminin. On a des femmes qui sont très souvent mises sous pilule très tôt pour diminuer les règles douloureuses, etc. On n'a pas forcément d'alternative à proposer, et au-delà de ça, quand ensuite on devient sexuellement active, entre guillemets, et bien au bout de quelques mois, très souvent, les femmes se mettent sous pilule, puis ensuite quand elles ont un enfant, sous stérilé, etc., etc. Et toutes les autres alternatives d'implants, mais en tout cas, la charge contraceptive repose encore majoritairement sur les femmes, et dans le couple hétérosexuel, c'est très souvent le cas. Quand on a évoqué avec Samuel cette problématique-là, sachant que nous ne voulions plus d'enfants et que ça me paraissait impensable de devoir toute ma vie prendre une pilule ou me faire poser un stérilet parce que j'avais pas envie en fait d'avoir un truc à l'intérieur de moi pour toujours, sachant que les femmes de ma famille autour de moi ont très mal réagi à tout ça et de très mauvaises expériences, bon bref, plein de raisons, et cette charge j'avais pas envie qu'elle m'incombe. Et en fait la discussion a été très naturellement vers cette réflexion de dire, mais en fait pourquoi c'est toi qui devrais avoir ce poids là sachant que nous ne voulons plus d'enfants? Et donc Samuel a pris la décision de faire une vasectomie, donc une contraception définitive. Enfin, c'est réversible à 60%, mais on considère quand même que c'est définitif, parce que on ne fait pas ça en se disant peut-être qu'un jour, hein. L'idée c'est d'être quand même très sûr de soi. Mais toujours est-il que ce partage de charge mentale contraceptive, c'est une réalité pour beaucoup beaucoup de femmes, et qui se pose notamment dans le couple hétérosexuel, et qui induit aussi d'autres inégalités sexuelles. Il y a la performance, bien sûr, il y a tout ce qui suit et ce qui s'étend en termes de standards de beauté, en termes d'attente. Regardez la différence entre un homme et une femme quand ils se préparent pour un date. Alors vous allez me dire, il y a toujours toujours des exceptions, on est bien d'accord. Il y a des hommes qui aiment beaucoup prendre soin d'eux au niveau des soins de leur peau, qui aiment bien être rasés de près, etc., bien habillés. Mais la différence, à mon sens, c'est que une femme qui ne va pas s'épiler, qui ne va pas forcément être maquillée, qui ne va pas cacher ses marques de fatigue, ses cernes ou ses imperfections, qui ne va pas se soucier de tous ces détails-là, sera très certainement pointée du doigt ou en tout cas remarquée d'une certaine façon. Un homme qui met une crème hydratante, qui se coiffe les cheveux ou qui met un jean assorti à sa chemise, je prends des exemples au hasard, mais vous comprenez l'idée, on pourra remarquer qu'il s'est apprêté, mais on ne va pas forcément pointer du doigt qu'il ne l'a pas fait. On ne va pas attendre de lui qu'il soit épilé, on ne va pas attendre de lui qu'il n'ait pas un cheveu qui dépasse, on ne va pas attendre de lui qu'il n'ait pas de cernes, etc. etc. Je ne vous parle pas d'un homme négligé dans le sens sale, débraillé, etc. Je vous parle d'un homme classique, je sais pas, je pense à mon père par exemple, je ne le vois pas du tout se mettre des crèmes sur le visage, se coiffer avec du gel et assortir sa chemise et ses chaussures. Lui, quand il va à un rendez-vous, bon, alors aujourd'hui il ne fait pas de date, mais quand il va à un rendez-vous, même un rendez-vous professionnel, il prend sa douche, à la limite il met du déodorant et personne ne remarque le fait qu'il n'ait pas un brushing soigné, qu'il n'ait pas oublié de mettre du mascara, etc. La différence, elle se place déjà là, en fait, dans ses attentes et dans ses standards de beauté auxquels on est toutes confrontées. Quand je vois des consoeurs influenceuses qui postent du contenu ou parfois on voit certains...
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Membres de leur corps, notamment on voit leur poitrine sans soutien-gorge ou qu'on voit la présence de poils sous les aisselles, etc. Les débats inutiles et violents, à mon sens, d'un autre siècle que ça génère, on se dit que c'est pas quelque chose qui est encore complètement acquis, loin de là d'ailleurs, et que ces standards sont bien présents dans nos représentations et dans ce qu'on attend d'une femme, et notamment parce qu'on considère qu'elle doit être désirable. On le voit dès le début, même au stade du date, où dans une relation plus évoluée en termes de temps, on s'attend à ce que les femmes soient toujours désirables, soient toujours dans cette démarche d'être désirée, peu importe si elle vient d'accoucher, peu importe si elle est fatiguée, qu'elle n'a pas envie, qu'elle ne veut plus porter de maquillage. Donc il y a cette pression-là de toujours devoir être objet de désir et séduisante et raviver la flamme, etc. Et dans la sexualité, encore une fois, parce qu'on parlait de ça à la base, mais je m'écarte beaucoup, dans cette inégalité sexuelle, il y a aussi au-delà de la représentation de performance et des standards de la beauté, cette inégalité d'accès au plaisir et d'accepter que une femme n'est pas un objet de désir uniquement lié à toutes les représentations pornographiques notamment que les hommes ont consommé tout au long de leur vie et même en tant que femme auquel on a pu être confronté. Le plaisir même, surtout le plaisir, passe par une prise en compte du corps de la femme, une connaissance du corps de la femme. Et donc cette différence-là, elle est majeure parce qu'on se retrouve des années tard, et moi j'ai des discussions avec des copines, je suis pas très vieille, j'ai 26 ans, mais même quand on en discute, pendant beaucoup d'années, il y a des injonctions et des croyances qui étaient totalement fondées sur le fait que c'est normal, une femme ça a moins de libido qu'un homme, moi je jouis pas à chaque fois parce que je suis pas une femme qui est clitoridienne, bref, je peux vous faire une liste comme ça, presque infini d'arguments qui nous semblent totalement valides et valables parce qu'on a complètement conscientisé le fait que un homme c'était beaucoup plus facile à satisfaire, que l'acte sexuel ne pouvait passer que par la pénétration, que l'acte sexuel ne pouvait avoir de fin et de quelque part de réussite, de notion de réussite quand le partenaire masculin avait eu son orgasme, et petit à petit on a induit du coup ces vérités qui fracassent notamment la notion de plaisir sexuel, de connaissance de soi, soi et d'acceptation aussi de partage de charge du plaisir quelque part, parce que très peu de partenaires sont concrètement en connaissance du corps de sa partenaire, du fonctionnement de sa partenaire, et surtout vont au-delà de ce à quoi ils ont été confrontés pendant des années dans les représentations hétéronormées, hétérocentrées, patriarcales de la pornographie. Et donc on attend à ce qu'une femme soit désirable, et presque on en vient à normaliser le fait qu'on va simuler un plaisir, parce qu'il faudrait quand même pas que monsieur se sente frustré et amoindri par le fait qu'il ne nous ait pas satisfait et que ce ne soit pas une bête sexuelle de performance. Je grossis les traits, mais vous comprenez l'idée qui se dégage de tout ça, c'est que dans tous les cas on a induit et on a un socle de croyances qu'on peut déconstruire. Ah, attention, encore une fois, on n'est pas dans un truc fatal, hein. Je suis en couple avec un homme et je suis très révoltée et très au courant de tous ces sujets là et ça me paraît impensable de me dire que mon couple est voué à l'échec tout simplement à cause de notre genre, hein. Pas du tout, et je terminerai cet épisode, vous le verrez, par une note quand même positive de possibilité d'évolution, parce que sinon ce serait terrible. Et je pense que peut-être contrairement à d'autres, et je sais que cette vision des choses ne fait pas forcément l'unanimité, mais moi j'ai tendance à croire que justement la présence des hommes dans cette lutte en tant qu'alliés, voilà, peut être bénéfique pour pouvoir avancer vers justement un monde plus égalitaire. Encore faut-il que ces messieurs acceptent de se séparer de certains privilèges. Mais c'est un autre sujet. On ne peut pas parler des couples hétérosexuels sans évoquer la violence domestique, les féminicides qui sont extrêmement préoccupants dans les relations hétérosexuelles. On en parle de plus en plus et on n'en parlera jamais assez. Mais en France, des centaines de femmes meurent sous les coups de leur mari ou de leur compagnon ou de leur ex-compagnon chaque année. Et c'est la réalité aussi de ce que représente le couple hétérosexuel dans la domination, dans l'accès au pouvoir, dans les rapports de force et dans cette représentation normée d'accès à la violence et de domination de ce qu'on considère le plus faible par le plus fort. Et si j'ai tiré le sujet de la violence intraconjugale, j'irai jusqu'à vous parler de l'éducation, mais là pour le coup on irait vraiment trop loin et je pense que ce serait l'occasion de peut-être d'y revenir, peut-être dans la prochaine saison quand j'aborderai des sujets de façon un peu plus large. Mais toujours est-il que c'est une réalité et c'est une préoccupation bien réelle des couples hétérosexuels et du monde en général, hein, au-delà du couple, même si là on parle des violences intraconjugales, les violences faites aux femmes font partie de notre société. Et je vous invite à écouter un épisode qui est extrêmement important, intelligent, révoltant, épisode du podcast Les Couilles sur la Table qui s'appelle Tuer les femmes, une histoire mondiale. Il est en deux parties et il est absolument fabuleux et en même temps terrifiant sur la réalité de la domination masculine à travers les siècles, les époques et la nôtre encore, que ce soit proche de nous ou plus éloigné géographiquement. C'est édifiant de vérité et de recherche et de constatation en fait. C'est important de se rendre compte, à mon sens, de l'ampleur de ce que ça implique en fait depuis toujours, et que ce ne sont pas des préoccupations récentes. C'est-à-dire que dans l'histoire, réellement, on a beaucoup invisibilisé les femmes, leur souffrance, leur douleur, leur extermination, hein, quelque part. Le travail de cette historienne est juste fabuleux, donc je vous le mettrai également en barre d'infos. Ok, maintenant qu'on a dépeint ce tableau, qui j'espère ne vous a pas trop déprimé, mais qui est parfois nécessaire pour nourrir la colère saine qui nous habite et qui nous permet d'engager des actions de lutte et de résistance. Voilà, c'est comme ça que moi je le vois en tout cas. J'ai envie de vous parler de mon couple et de mes réflexions personnelles vis-à-vis de toutes ces constatations. Et spoiler, on n'est pas divorcé et pour l'instant on compte rester ensemble pendant de nombreuses années. Même si il y a eu vraiment des périodes de perte de sens. Parce que quand vous avez des sujets qui vous animent, qui vous habitent quelque part, qui sont des sujets de lutte et de causes importantes pour vous, vous pouvez parfois être un peu submergé par la réalité des choses, et en ce qui concerne le féminisme, ça a été le cas pour moi. Quand vous êtes confronté à la réalité de ces réflexions et de ces sujets, vous pouvez devenir peut-être même irrité à l'idée même d'avoir cette discussion avec votre partenaire, surtout si vous êtes dans un couple hétérosexuel pour le coup. Et ça a été un peu le cas pour moi, c'est-à-dire que vraiment, je me suis dit, de toute façon, il ne pourra jamais comprendre, dans le sens où on ne peut pas prendre la mesure de la personne qui est opprimée quand on ne l'est pas. Au même titre que je me permets permettrai jamais de dire et de prétendre ressentir exactement ce qu'une personne racisée ressent dans son quotidien, tout en ayant tout à fait conscience du racisme et en étant vigilante à ce sujet. Mais ce n'est pas la même chose, parce que ce n'est pas intrinsèquement vécu, ce n'est pas vécu de façon personnelle. Je ne suis pas victime de racisme, je suis une femme blanche, privilégiée, d'un milieu pas bourgeois, mais en tout cas de classe moyenne, et donc je n'ai pas subi certaines discriminations, et je n'ai pas subi le racisme. Donc je suis en capacité de parler de justement ce que je peux vivre en tant que femme, parce que je me genre au féminin et que je suis en accord avec le genre qui m'a été attribué à la naissance, mais il est impensable pour moi de prendre la parole, ou en tout cas de parler à la place des communautés qui sont opprimées, rejetées, discriminées et dont je ne fais pas partie. Donc c'était un peu compliqué pour moi, parce que j'imaginais la discussion avec Samuel, et en même temps je me disais, je sais qu'il pourra jamais prendre la mesure de tout ce que nous vivons et de toutes les réalisations dont je prends connaissance petit à petit dans mes recherches et dans ma lutte et dans mon positionnement féministe, mais c'est impensable pour moi de ne pas partager autour de ces sujets-là. Et donc la première chose, c'est que en parlant ouvertement de ce que je ressentais émotionnellement, cette colère, et le fait de me dire que j'avais le droit d'être en colère, je suis une femme en colère, voilà. Il faut le savoir, ça me révolte et même ça m'attriste, parce que quand je parle de ces sujets, je sens en moi vraiment une gorge serrée et des larmes qui montent très facilement, de décharge peut-être, mais une certaine forme, et je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix, de colère et de tristesse, de révolte. Et donc c'était important pour moi d'exprimer ces émotions-là et de voir comment ça allait être accueilli, et évidemment j'ai été très 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 agréablement surprise, je ne sais pas, mais si, quand même un peu surprise, parce que Samuel a eu un discours extrêmement juste, en fait, extrêmement juste, de compréhension, sans en faire trop, sans en faire pas assez, sans se mettre dans une position qui était inconfortable, ou qui au contraire prenait trop de place, qui était surjouée, etc. Et il a eu vraiment cette posture d'allié dans ses mots et dans cette discussion, et surtout, il a évoqué le fait que il avait besoin d'être pas accompagné, parce que ça va, on va pas en plus demander aux femmes d'éduquer les hommes, mais il avait besoin de sentir qu'il pourrait toujours avoir cette petite sonnette d'alarme, entre guillemets, que moi je serais en capacité de sonner quand je vois qu'il y a un truc qui va pas, pour simplement le guider et qu'il puisse lui faire son propre cheminement et cette propre déconstruction, cette propre réflexion sur des sujets qui paraissaient acquis dans notre quotidien. Et donc parfois sur certaines choses, je vais lui dire, ah tiens, mais ça tu m'aurais dit la même chose si j'avais été un homme, ou ah tiens, et ça t'as vu comment ça s'est passé dans ce restaurant, ou tu as vu à l'hôtel la façon dont elle... Et donc c'est des petites choses comme ça, il s'agit pas de s'accabler l'un l'autre, et ça part pas du tout au clash, hein, pas du tout, c'est au contraire dans une communication, une transparence, mais je sais qu'au quotidien ça lui sert de base de réflexion et de cheminement dans plein de sujets, même avec Gaspard, dans la façon dont on éduque notre petit garçon qui a forcément dès son enfance été confronté à tout ce que notre société a encore de très patriarcal, dans la cour de récréation, dans la façon dont il interagit avec les autres, avec les autres enfants, les autres petites filles, les autres petits garçons, etc. Et donc d'avoir cette piste de réflexion permanente, c'est comme si on était en brainstorming tout le temps. Alors c'est pas du tout comme on peut s'imaginer, on n'est pas autour d'une table à se dire attention il y a ça, et on pose pas les pour les contre, on compte pas les points, c'est pas un match, pas du tout. Mais on est dans une volonté de s'élever quelque part l'un l'autre dans nos réflexions communes, et surtout déterminer nos limites, des choses qu'on acceptait, qu'on n'accepte plus. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer, mais par exemple dans notre intimité, il me semble que j'en avais déjà parlé légèrement en podcast, mais c'est l'occasion de s'étendre davantage. C'est vrai que maintenant c'est très clair pour nous que les moments d'intimité, et j'entends par là les contacts physiques, le fait de s'embrasser, etc., n'induisent pas forcément un rapport sexuel, et c'est quelque chose que j'ai remarqué ces dernières années, où j'ai eu cette réflexion de dire, mais en fait j'ai l'impression que je ne peux pas être tactile avec toi, parce que j'ai l'impression que tu prends ça comme un signal de début ou d'envie d'aller plus loin, et du coup je me réfrène dans ces démonstrations là parce que j'ai pas envie que ça débouche forcément sur quelque chose, et au lieu de l'exprimer, quelque part je préfère réfréner justement parfois juste l'envie d'être câliné, ou juste de regarder un film collé, bref, d'être dans une intimité et une proximité physique qui n'induisent pas un rapport sexuel. Et cette discussion, elle a été hyper intéressante parce que justement elle a permis du coup d'être beaucoup plus dans une communication et une transparence par rapport à nos envies communes et lui-même de ne plus se dire que parce que c'était un homme il devait tout le temps être disponible pour des relations intimes etc etc. Donc ça a permis vraiment d'avancer sur des sujets et c'est pour ça que je partage ces exemples, c'est pas simplement pour étaler ma vie, vous le comprenez bien, mais c'est surtout parce que je pense que ça permet aussi de désacraliser des discussions et des sujets qui paraissent parfois tellement insurmontables, même en tant que couple et même quand on est ensemble depuis des années, parce qu'on nous a toujours appris à finalement pas parler de tout ça et à se ranger dans nos rôles respectifs. Et au quotidien, c'est pourtant sur ces sujets-là que les choses permettent à mon sens d'avancer aussi. Et je passe aussi tout ce qui concerne la charge mentale, mais ça a été beaucoup de discussions, beaucoup de prise en compte de nos besoins et des inégalités qui étaient présentes même malgré nous. Bien sûr, ça passe par la communication, mais ça passe par la communication quand la personne est en capacité d'une remise en question et surtout d'abandonner ses privilèges. Et c'est toute la difficulté de l'implication des hommes dans cette lutte, c'est la réalisation profonde que pour faire avancer cette cause et faire avancer cette lutte, il est nécessaire d'abandonner des privilèges. Et c'est ce qui rend compliqué cette lutte. On ne demande pas aux hommes de rendre le patriarcat plus confortable pour eux. On demande aux hommes de réellement prendre conscience déjà de cette inégalité globale qui est encore très présente et pour autant on essaie de nous faire croire que c'est acquis, mais non, c'est acquis sur le papier, mais dans la réalité ça n'est pas du tout le cas. Et encore, on parle de notre échelle, de notre petite échelle de pays occidental. Si on l'étend au monde, là on peut dire que même sur le papier c'est clairement inégal. On a cette nécessité de réalisation puis de laisser la place à, voilà, de pas parler à la place de celles qui sont concernées, et aussi de se rendre compte que l'abandon des privilèges est une composante indispensable de cette lutte, et c'est quelque part nécessaire pour faire avancer ce combat. Et c'est ce qui rend encore une fois les choses bien complexes, c'est que bah, pourquoi vous auriez envie d'abandonner vos privilèges alors que ça a toujours été acquis, induit, normalisé, banalisé dans nos vies depuis toujours, du berceau à la tombe quelque part. Je pense que j'ai tourné autour du sujet, mais je me suis bien écartée aussi parce que c'est beaucoup plus global que simplement se dire oh là là, est-ce que je peux être féministe et être en couple hétérosexuel. À mon sens, je pense que oui, parce que je suis féministe et que je suis en couple hétérosexuel, mais ça induit des réflexions et des situations parfois très inconfortables avec des émotions désagréables, et c'est ok. En fait, j'avais aussi envie de passer ce message là c'est ok d'être dans cette dualité, d'être dans cette dissonance parfois, et de remettre en question beaucoup de choses. Voilà, vous n'êtes pas seul. J'ai hâte qu'on partage autour de ce sujet, et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Salut ça va. Salut.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé, ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com